I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Bonjour, bienvenue, merci d'avoir pu profiter avec Fibre Tigre et tous nos invités de ce superbe dîner. Donc du coup, c'était un jeu de rôle qui était passionnant. Fibre, ça s'est bien passé pour toi ?
Ouais, c'était très bien. J'ai moins travaillé que d'habitude et ils étaient super chauds. Et un truc que vous n'avez pas vu, c'est que pour les chauffer juste avant l'émission... Parce que j'ai jamais, par exemple, travaillé avec Salomé. Bah, j'avais travaillé avec personne, mais j'avais pas. On a fait un débat et j'ai pas réfléchi. J'ai dit, toi, t'es. Enfin, vous, côté gauche, vous êtes anti-nucléaire. Ah oui. Côté droit, vous êtes pro-nucléaire. Allez-y. Et ils sont vraiment mis sur la gueule. J'ai dit, c'est bon, ça.
Là, pendant cette petite heure qu'on va passer ensemble, l'idée, c'est de profiter du dessert. On va partager le dessert ensemble et donc de débriefer ce jeu de rôle qu'on a fait. Donc, on va se prendre une petite heure pour débriefer tout ça. Je vais vous présenter un petit peu, représenter tous ces gens qui sont autour de la table. Donc, Fibre Tigre, évidemment, qui a animé, qui a créé ce jeu qu'on a vécu ce soir. Léna, tu es entomologiste, tu es scarabée sur les réseaux sociaux, YouTube, Instagram. Et donc, tu vulgarises toute la question autour des insectes, ton travail d'entomologiste, etc. On a Maxence Witz, entrepreneur à Lille. Tu as notamment créé une agence de com qui s'appelle Les Aiguilleurs. Attendez, j'ai mal noté.
La Quincaillerie,
Les Aiguilleurs. J'ai sorti ça de mon cerveau.
C'est pas mal aussi, tiens. Je vais proposer ça à mes associés.
Salomé Saquet, tu es journaliste chez Blast. Tu es aussi écrivaine. J'ai ton livre juste là. Sois jeune et tais-toi. Et puis, Malik Délégué, donc tu as commencé dans la communication. Et aujourd'hui, tu es chroniqueur chez Backseat.
Exactement.
Donc, tout l'enjeu, évidemment, de ce jeu de rôle, c'était essayer de voir dans cette famille qui était le pire écolo de tous les membres de cette famille. À chaud, comme ça, un petit peu, vous pouvez me dire, pour vous, c'était qui le pire ?
Bon, le grand-père ou le père, c'était dur quand même. Hein. C'est dur. Le grand-père, je veux dire, il a un petit peu l'excuse de la régénération. Le père, il n'a plus aucune excuse, quoi.
Fibre, ton avis ?
En fait, ils n'ont pas... tous les personnages étaient affreux. Je sais pas. En fait, il faudrait que vous voyez les fiches de personnages parce que dans la biographie, ils s'excusent, ils sont tout le temps hyper vertueux. Ok, par exemple, le père, c'est vraiment mon seul truc, c'est je vais au ski. C'est vraiment le seul truc, tu vois. Et grâce à ça, j'ai pu avoir les JO d'hiver, voilà. Et ils sont persuadés de faire le bien, tu vois, alors qu'ils ont des comportements. Mais juste pour revenir, excuse-moi, je suis un tout petit peu long, mais ça prend une minute. C'est que quand on m'a sollicité pour ça, on m'a dit ce serait bien de faire un procès jeune génération versus vieille génération. Et je pense. Je pense que c'est pas bien parce que déjà ça va braquer les vieux et le but c'est de faire changer d'avis les vieux et pas de les aliéner, donc j'étais pas pour. Et aussi je pense que, et à travers le personnage de Louise c'est intéressant, que les jeunes ont des comportements qui sont pas du tout vertueux. Moi le premier par exemple, je Twitch à balle, Netflix à balle, je télécharge des jeux vidéo, donc je pense que je suis pas du tout vertueux et tout le monde doit faire des efforts. C'est pour ça que le repas de famille c'était intéressant, parce que dans un repas de famille, on est tous à égalité et on sort tous les dossiers. Voilà.
Merci beaucoup. Et toi, Maxence, du coup, toi, tu étais dans le public, tu as assisté à tout ça. Pour toi, c'était qui le pire de tous ?
Le pire de tous, je dirais évidemment que c'était Bruno aussi, dans le sens où... Excuse-moi, Malek, excuse-moi.
Non, t'inquiète pas.
Mais je dirais en effet qu'il y a l'excuse de l'âge pour Raymond, mais qu'en effet, concrètement, il y a des actions qui sont possibles. Et surtout, quand on est un homme politique, de base, c'est quelqu'un qui doit agir. Et c'est quand même le comble de voir quelqu'un qui se justifie et dire qu'il est le meilleur, alors qu'en fait, au final, il n'y a rien qui se passe, quoi. C'est de l'inaction dans l'inaction, même pas dans l'action, quoi.
Salomé, de ton côté ?
Alors effectivement, Bruno, il y a la dimension politique qui le rend particulièrement détestable, c'est qu'il a des responsabilités et donc une capacité de changement qui est quand même énorme. Mais je trouve que celui qui était le plus insupportable, c'est vraiment Vendry, parce que c'est ça aussi qui est difficile. C'est que là, on ne parle pas de petites contradictions, on parle de quelqu'un qui profite complètement du système. Quand on est devenu millionnaire, en réalité, les personnes de cet âge-là qui sont millionnaires, qui ont fait fortune dans le Bitcoin, ne sont pas du tout... majoritaire, mais son personnage est particulièrement insupportable, parce qu'entre Dubaï, le paradis fiscal, les voyages à Cancun, aux Bahamas et compagnie, l'avion tout le temps, la pollution du Bitcoin en lui-même, et puis alors je vais pas commencer à partir sur le Bitcoin, mais de manière générale, il a pas une utilité sociale immense et qui en plus se permet de donner des leçons avec un ton qui était très bien fait par du coup le comment il s'appelait
Sébastien
pardon. Je viens de rencontrer toutes ces personnes pour ma défense. Je devais retenir les prénoms des personnages et les prénoms des vraies personnes et donc il l'a très très bien incarné. Mais c'est vrai que tous les personnages étaient atroces. Je voudrais juste rebondir sur le truc de génération. Effectivement, je trouve qu'il ne faut pas opposer les générations. Et là, les personnages de jeunes étaient particulièrement quand même gratinés. Mais je trouve qu'il y a quand même une différence dans le fait que les plus vieilles générations ont plus de moyens pour polluer parce qu'ils ont plus d'argent, ils détiennent plus de patrimoine. Donc, effectivement, les jeunes ont tout autant de contradictions et ils peuvent tout à fait être pollueurs. Mais les plus âgés ont non seulement plus de moyens, ils sont plus nombreux et ils ont plus de poids politique. Donc, et surtout, ils vont moins faire face aux conséquences du réchauffement climatique. Hein, ceux qui sont en première ligne, c'est quand même les jeunes. Moi, j'ai tendance à dire oui, les jeunes polluent, mais...
Voilà. Alors, juste, il y a une réalité parce que je me suis penché sur des jeunes. Alors, les jeunes qui sont autour de moi, malheureusement, j'ai pas d'enfants, ils sont sur Twitter. Mais effectivement, les jeunes rêvent d'être millionnaires très rapidement. On ne sait pas d'ailleurs pourquoi ils veulent être millionnaires. Ils veulent juste avoir le million, un peu comme un high score aux jeux vidéo. Et donc, effectivement, ils ont un objectif très bizarre. Bon, c'est lié ils veulent être youtubeurs aussi, qui est aussi un métier qui n'est pas forcément. Et en fait, cette espèce d'objectif de vie fait que il ne peut pas y avoir de solution vertueuse. C'est ça le problème.
On reviendra peut-être dessus.
Oui, complètement. On va revenir dessus pendant tout ce stream. Et pour terminer, Malek, toi qui es le pire écolo de tout ce stream.
Bruno, alors non, Malek n'est pas le pire écolo, mais par contre, Bruno l'est. Pardon, excusez-moi. Bruno, je plaide coupable, hein, j'ai été le plus grand connard qui soit. Après, il se trouve que, comme je l'ai dit, j'ai bossé pour des politiques, donc j'ai eu un petit stage d'immersion quand même qui m'a permis d'être bien détestable. Et voilà, oui, j'ai ma bagnole. J'ai la piscine, je bouffe de la viande comme pas possible, la République dominicaine, les JO. Ouais, un connard.
Bon, l'un des premiers grands sujets que vous avez évoqué pendant ce jeu de rôle, c'est la thématique des transports. Vendry a été élu le pire écolo, il me semble, en tout cas par la salle, de toute la table.
Non, par le chat aussi, ouais.
Par le chat aussi ?
Ouais, vraiment.
Ah, ouais.
Mais je pense qu'à partir du moment où il a dit Bitcoin, crypto-monnaie, Dubaï, il était mort. C'est...
toi, justement, Fibre, comment tu l'as créé, ce perso ? Est-ce que quand tu as créé ce perso, tu t'es dit, allez, lui, ça va être forcément le pire ?
Non, pas du tout, c'était pas le pire. Moi, je pense qu'on n'a pas du tout chargé le grand-père, qui a une Kangoo de 20 ans, diesel, complètement pourrie. Et je trouve que le... Parce que, comme tu l'as dit, un millionnaire, il n'y en a qu'un. Tu vois, il n'y a qu'un gars qui va faire trois... Enfin, je pense qu'il y a une distribution des gens qui prennent l'avion assez faible, en fait, exponentielle, tu vois. Mais le gars qui a sa Kangoo de 20 ans et qui dit ma toutoune, je la change pas, ben, en fait, il y en a plein. Et ça, c'est un vrai problème aussi. Il y a cette espèce. Alors, je sais que sur les territoires, c'est compliqué, mais moi, je vis à la campagne et je n'ai pas de voiture et je prends le train tout le temps. Et Dieu sait que la SNCF est tout le temps en retard, que je suis obligé. Ça me coûte non pas cher en transport, mais en hôtel. Parce que quand j'ai une émission le jeudi, je viens à Paris le mercredi. Parce que si je viens le jeudi, je ne suis pas certain d'être à l'heure, tu vois. Donc, il y a aujourd'hui la responsabilité... Enfin, le papy représentait plus le problème individuel de chacun, je trouve. Voilà.
Ouais, c'est ça. Mais la question, c'est un petit peu de se demander aussi si l'impact écologique de nos actes individuels face à prendre l'avion quand tu es millionnaire, etc. Est-ce qu'on peut mettre en rapport ce genre de choses, Salomé, par exemple ?
En fait, moi, je pense qu'il s'est passé dans ce dîner, ce qui se passe exactement dans la vraie vie, c'est qu'on a tendance à remettre la faute sur les autres. Et c'était hyper intéressant comme dynamique, parce que c'est vraiment une vraie dynamique de dîner de famille. C'est-à-dire qu'on va te reprocher un truc qui est légitime, et tous les personnages ont quelque chose à se reprocher, comme dans la vie, quasiment personne n'est un écolo parfait. Et au lieu d'intégrer la critique et de vraiment se remettre en question, on va dire « Oui, mais toi, t'as fait ça. » Ouais. Et ça, c'est le problème de société pour moi auquel on fait face aujourd'hui. Donc oui, effectivement, changer sa Kangoo, changer sa voiture, on a besoin de faire ça. Mais il y a un moment où c'est pour ça qu'il faut politiser les choses. C'est pour ça qu'on a besoin de mesures qui viennent, on pourrait dire vulgairement, mais d'en haut, où on arrive à structurer le changement, à rendre ça acceptable et à avoir aussi des mobilisations individuelles qui sont concomitantes. Parce que ce changement politique, on aura beau l'appeler de nos voeux autant qu'on veut, tant qu'on vote pas pour des gens qui changent ça, qui font réellement la mise en place de ces changements, on n'y arrive pas. Et c'est pour ça que c'est vraiment l'espèce de casse-tête, parfois qui a l'air insoluble, auquel on fait face. C'est que il n'y a pas un seul responsable. Il n'y a pas une personne qui, une fois qu'elle va changer son mode de vie, tout va bien se passer. Même si demain, les millionnaires arrêtaient de prendre leur jet, on n'est pas sortis de l'auberge non plus. Donc, c'est pour ça qu'on a besoin d'avoir des changements individuels et que chacun, quand même, voilà, aussi réussisse à se remettre en question dans son rôle de citoyen aussi politique. C'est pas pour tout politiser, mais on aura beau trier nos déchets et même changer notre voiture et tout ça, tant qu'il n'y a pas le changement à grande échelle. Et ce changement à grande échelle, il arrive aussi parce qu'on se mobilise en tant que citoyen, parce qu'on vote, parce qu'on manifeste, parce qu'on boycotte, parce qu'on agit de manière politique dans toutes les voilà, dans tous les endroits où c'est possible.
Mais ça, c'est clair que tu soulèves un point. Dans ce dîner, il y a eu énormément systématiquement ce fait. À chaque fois, il y a un problème, on pointe le doigt sur quelqu'un d'autre. C'est notamment ton cas, Léna, hein, quand on commence à parler du frère qui prend l'avion pour aller à Dubaï encore. Oui, mais toi, tu vas au Japon.
Ben, c'est ça. Complètement. Mais je rebondis sur ce que tu dis. Il y a beaucoup aussi. On pointe souvent le doigt effectivement sur les autres au lieu d'accepter la critique et de se dire ah oui c'est vrai que j'ai pris ma voiture pour aller faire telle course alors que j'aurais pu prendre les transports en commun. Et c'est des petites actions qui en fait pourraient montrer l'exemple aux autres et au fur et à mesure tout le monde prendre des petites actions qui font effet boule de neige. Et puis, on le sait que quand même, les politiques, ils vont prendre des décisions en fonction un petit peu de leur futur électorat. Et si tout le monde bouge un peu et qu'on montre qu'on a envie que les choses changent, eh ben, ils n'auront pas d'autre choix que de faire changer les choses. Mais il y a un énorme délai. C'est ça le problème. C'est-à-dire qu'il faut attendre 3-4 ans pour qu'ils prennent des décisions qu'on a demandées à tel instant. C'est épuisant, mais c'est un travail qu'il faut continuer à faire. Et c'est en ça que je disais que j'étais quand même assez optimiste dans nos actions à nous. Et voilà quoi.
Soulignons quand même le Japon, si je n'ai pas pris ça au hasard, c'est un fléau. C'est-à-dire 100% des influenceurs, des streamers, désolé les gars, je vous aime, mais vous êtes allés au Japon et vous y allez plusieurs fois. Et pourquoi le Japon? Pourquoi pas Istanbul? Tu vois, tu vas aller voir une culture complètement différente, hyper intéressante. T'as Istanbul, tu peux même aller au Portugal, c'est quand même un petit peu différent. Et vraiment, cette volonté d'aller dans ce petit pays, le Japon, qui est très intéressant, je suis d'accord, mais vraiment d'y aller, et je vais y aller 6 fois, 7 fois, 8 fois dans ma vie, c'est vraiment à l'autre bout de la planète, les gars. C'est vraiment compliqué aujourd'hui. Voilà. Et c'est systématique. C'est-à-dire que c'est intéressant, c'est le discours de Louise que j'ai bien écrit, c'est-à-dire. C'est vraiment mon petit bonheur, c'est mon plaisir, c'est mon rêve. Je rêve d'aller au Japon. Vous n'allez pas m'en priver, je suis né sur Terre pour aller au Japon. C'est une question qu'il faut se poser. Voilà.
Et là, pardon, vas-y.
Je voudrais juste rebondir sur cette question. Il y a vraiment pour moi deux sujets. Il y a la question du bonheur individuel, où je peux concevoir que quand on nous a biberonné à ça, qu'on a construit nos imaginaires de cette manière, c'est dur de renoncer à ses rêves individuels. Mais les influenceurs, c'est encore une autre histoire, parce qu'ils diffusent le rêve. C'est d'autant plus grave. C'est que non, c'est pas juste je vais au Japon, moi, de mon côté, et je fais mon petit kiff. C'est je le présente aux autres comme étant quelque chose de désirable et j'en fais la pub. Et d'une certaine manière, je provoque d'autres voyages au Japon. Donc l'empreinte carbone d'un voyage au Japon, d'un influenceur qui ensuite va en faire la promotion partout sur ses réseaux sociaux et va montrer à quel point c'est génial, elle est énorme et elle est supérieure à quelqu'un qui ferait juste ça de son côté, qui ne le mettrait pas du tout sur les réseaux sociaux.
Et Lucie, elle défend son voyage au Japon en disant que, oui, mais elle va parler d'écologie là-bas, elle va défendre l'écologie, etc. Ça se justifie ?
C'est hyper compliqué.
C'est pour se donner bonne conscience aussi.
Moi, je pense en tout cas que mettre des photos aujourd'hui dans l'avion et en faire la promotion d'une manière ou d'une autre, c'est vraiment, ça ne se justifie pas. Qu'on le prenne à côté, moi je suis pas pour la chasse au comportement individuel de chaque personne parce que tout le monde à un moment fait un truc qu'il faudrait pas faire, donc je serais pas pour qu'on aille vraiment massacrer quelqu'un sur un voyage. Mais par contre, la personne qui se met en photo aujourd'hui dans l'avion et dit regardez comme c'est cool, ça pour moi il y a pas de justification à ça. Je le comprends pas en 2024 en tout cas.
Ce que tu dis c'est archi intéressant. je fais le reflet sur un truc très perso. J'ai pris l'avion là en décembre. Je crois que j'avais pas pris l'avion depuis 3 ans. Et tu vois, il y a cette fameuse photo qu'on met dans l'avion avec cette fameuse ref pour les Jones dans la viande. Et ben, je me suis dit, Malek, non, ne la poste pas. Un, déjà parce que j'ai pas envie de me manger un big storm dans mes messages sur Instagram. First, et puis secondo, parce que j'avoue que, ok, je prends l'avion, ok, je l'ai pas pris depuis longtemps, mais ça, les gens ne sont pas censés le savoir. J'explique pas l'historique, mais j'ai pas envie de faire la promotion de ça. Donc, je prends l'avion, ok, mais j'en fais pas la promo non plus, quoi. Ouais, c'est pas mal en vrai. C'est un bon comportement, frère.
Maxence, tu dis que tu te donnes bonne conscience avec le fait de parler de l'écologie en prenant l'avion, mais en fait, non.
Ouais, tout à fait, bien sûr. Après, moi aussi, je partage l'optimisme que t'as évoqué tout à l'heure, parce que je pense que c'est important, et je pense que je serais pas entrepreneur si, justement, j'étais pas optimiste également. Et je le suis d'autant plus que je me dis que, en fait, les politiques, c'est très bien, ça drive des grands projets, mais en fait, la dynamique, elle est avant tout entrepreneuriale, en fait. Qu'est-ce qui est le moteur, en fait, de l'action? Évidemment, il y a un cap qui est fixé, mais c'est aussi avant tout l'économie. Ce sont les entreprises, justement, qui viennent aider et contribuer, justement, aux dynamiques. Alors, il faut qu'elles soient positives et que, justement, ça s'ancre dans la bonne démarche, évidemment. Mais je suis encore plus optimiste, quand je vois que, en tant qu'entrepreneur, il y a énormément d'entreprises qui ont un impact RSE plus que positif. Il y a des entreprises à mission, il y a des entreprises qui ont vraiment le sens et le réflexe de dire « Ok, on produit ». Mais comment est-ce qu'on va bien produire et comment est-ce qu'on va anticiper justement le recyclage et également le sourcing? Parce qu'il ne faut pas oublier qu'on parle de transport depuis tout à l'heure, on parle des voyages. Alors oui, les transports, c'est 30% à peu près des gaz à effet de serre. Concrètement, 95% ce sont liés au transport de marchandises. Donc il faut aussi remettre un petit peu en lumière que c'est surtout les transporteurs et toute cette logistique associée qui est peut-être aussi un fléau qu'il faut peut-être un petit peu transformer en allant chercher du local, en retransformant aussi la chaîne d'approvisionnement et de contribuer à des nouvelles manières justement d'approvisionner et de continuer à avancer en ce sens avec cette prise de conscience des dirigeants qui sont eux aussi acteurs avant tout. Il n'y a pas que les politiques, il y a aussi les entreprises qui doivent être et se saisir, et elles le sont pour une partie, tout au moins, entreprenante dans cette démarche.
Oui, ça soulève la question qu'on discute aussi depuis tout à l'heure. Hein. Là, dans ce dîner, il y a beaucoup la responsabilité individuelle qui est mise en avant, puisque c'est toute l'essence même de ce jeu de rôle. Mais cette responsabilité doit aussi peser sur les dirigeants, les entreprises, etc., qui sont responsables de ces émissions de gaz à effet de serre. Il y a aussi la question du sacrifice, finalement, de faire des efforts, lâcher certaines de ses habitudes. Pour vous, dans ce dîner, qui devrait faire le plus de sacrifices par rapport à ses habitudes pour l'écologie?
C'est Vendrille.
Ouais.
Pour moi, c'est Vendrille. Parce qu'en fait, c'est Vendrille qui a le style de vie le plus incompatible. Allez, vous demanderiez Bruno, mais Vendrille qui... vit dans un monde ultra connecté qui n'est pas compatible, hein, clairement, avec les limites planétaires, qui vit sur de la spéculation, parce que le Bitcoin, c'est ça, quand même aussi, en tout cas, qui prend l'avion tout le temps, parce que lui, il ne le prend pas un petit peu, Vendrille, il le prend tout le temps, et c'est ça qui sort au fur et à mesure du débat. C'est complètement incompatible. En fait, tout son style de vie doit être revu.
Il a le train de vie d'un millionnaire aussi.
Il a le train de vie d'un millionnaire. Et aujourd'hui, ce n'est pas compatible avec les limites planétaires. C'est mathématique, c'est scientifique. Et c'est la même chose pour Bruno. On ne peut pas avoir quelqu'un qui prend son SUV pour aller au travail, qui va au travail pour contribuer à des événements dont le travail, si on prend le cas des JO, c'est vraiment de créer des événements qui sont des bombes climatiques d'une certaine manière, et qui va rentrer chez lui dans sa belle maison avec sa piscine qu'il va remplir allègrement sans réfléchir aux questions de pénurie d'eau. Il n'y a rien qui va en fait dans le mode de vie de ces personnages-là, et effectivement il faudrait qu'ils revoient. C'est pour ça qu'à la fin, sur la question de l'optimisme, si ces gens-là sont prêts à modifier très profondément leur mode de vie, ok, j'arriverai à être optimiste, mais je ne crois pas que ce soit le cas aujourd'hui.
Alors moi, encore une fois, je vais charger le papy de TPK. À savoir que c'est une personne que j'ai rencontrée dans un TER un jour qui m'a dit « Ouais, moi, je suis en train de passer mon brevet de pilote, je suis à la retraite. » Et c'est une femme, en plus. Donc, et en fait, ce sont des gens qui ont fait un métier plus dur que le nôtre. Et ils n'allaient pas à la mine, mais quasi. Ils faisaient des métiers d'ouvriers très durs, dans une pénibilité de travail beaucoup plus dure parce que le code du travail ne les protégeait pas. Et en fait, c'est des gens à qui on a promis, on leur a dit, c'est dur, mais en vrai, un jour, vous serez à la retraite et vous serez tout payé et vous pourrez jouir de la vie comme jamais, tu vois. Et effectivement, ils ont vécu comme ça. Ils sont arrivés à la retraite, ils ont dit, maintenant, j'y vais. Et c'est insupportable pour eux de leur dire, vous savez, on vous a dit que vous pouvez faire ce que vous voulez. Finalement, non, vous n'allez pas pouvoir faire tout ce que vous voulez parce qu'il faut sauver la planète. Et je pense qu'ils n'en ont rien à faire. Et c'est des gens qui vont vivre longtemps, qui vont être bien payés très longtemps et qui vont effectivement jouir de cette vie sans éducation. Et je suis désolé aussi, si on s'oppose à eux, ils vont s'opposer à nous. Et il y a un nœud très fort, je pense, là. Et j'ai du mal à assurer un dialogue avec... Je parle des gens qui sont vraiment à la retraite et qui effectivement disent « Je comprends qu'il y a un problème, je comprends c'est grave, mais en vrai, j'ai payé ma part et je veux avoir la monnaie de ma pièce.
Voilà. » Mais du coup, le problème, c'est pas tant la profondeur du changement, parce que si on prend d'un point de vue hyper mathématique, qui doit changer quoi, quel est le niveau de changement, j'ai pas l'impression que ce soit si énorme pour Raymond. Par contre, et là je te rejoins complètement, le niveau de réticence est beaucoup plus élevé chez une partie des plus âgés. J'insiste, une partie, pas tous, mais quand même.
L'opposition des retraités,
c'est un énorme problème.
Aux éoliennes, elle est incompréhensible. Et pourtant, elle existe. Elle est irrationnelle. Elle est l'ordre de l'irrationnel. C'est-à-dire que c'est vraiment les populations 60+, extrême droite bien sûr, mais 60+ qui s'opposent aux éoliennes, mais il n'y a aucun argument rationnel derrière. C'est-à-dire, l'argument, c'est ça détruit le paysage.
Ouais, mais il y a peut-être un défaut de conscience écologique, en fait. Tout simplement, je pense que les personnes retraitées n'ont jamais baigné, justement, dans cette communication nécessaire pour autant, justement, aux plus jeunes qu'on a eu, nous, dans notre génération, de se dire attention. En effet, il faut éteindre les lumières, il faut faire attention à énormément de sujets et de choses dans notre quotidien qui peuvent communément faire pour beaucoup pour autant.
Et puis je pense aussi qu'il y a une dimension qui est la dimension de on va sacrifier du confort. Ouais. Alors qu'en fait, il n'y a pas de. On voit tout ça comme un sacrifice, sauf qu'il y a énormément de choses qu'on peut mettre en place qui ne vont pas sacrifier. Je vois la réduction de la consommation de la viande, par exemple. On a eu une gastronomie qui n'avait pas forcément une viande à chaque repas. On a des plats qui sont excellents, qui sont français, qui sont de notre gastronomie.
Le gratin dauphinois.
Le gratin dauphinois que j'ai redécouvert il n'y a pas longtemps, c'est pour ça que j'avais pris ça comme exemple. Il n'y a pas de viande dedans. Après, c'est vrai que ma grand-mère, par exemple, si on parle des retraités, elle, maintenant qu'elle est retraitée et qu'elle a les moyens, elle n'avait pas les moyens avant, elle met trois viandes différentes sur la table le dimanche. Ça me paraît surréaliste. Mais du coup... elle n'arrive pas à comprendre que moi, je ne me prive pas de ne pas faire de la viande à chaque repas. C'est un autre plaisir. Je ne me prive pas à ne pas à acheter local. Le fait d'aller au marché et d'aller acheter chez le producteur, c'est un grand plaisir, en fait.
C'est vraiment difficile quand... Enfin, c'est des gens à qui, j'imagine, le gigot dominical, c'était un rêve. Moi, né en 1978, ce qu'on m'a dit, le rêve, c'est d'aller au ski en février et d'aller aux Caraïbes en été. C'était ça le rêve des années 80 et de prendre de la coke, j'imagine. Donc effectivement, il se trouve que j'ai eu de la chance, c'est que j'ai été assez pauvre longtemps, donc j'ai jamais pu réaliser ces rêves. Et maintenant, j'ai une conscience écologique. Donc en plus, alors vraiment, j'irai jamais aux Caraïbes et ni au ski, il y aura plus de neige. Donc j'ai jamais pu le faire. Mais si j'ai vu comme mes collègues qui sont très riches, les gens de mon âge qui ont réussi, ils sont au ski en hiver et ils sont aux Caraïbes en été. On subit mais véritablement les rêves qu'on nous inculque.
C'est pour ça que moi, la question de l'âge m'importe tant, même s'il ne faut vraiment surtout pas réduire ça à un combat générationnel, parce que c'est un combat de classe, je pense, avant tout. Mais il y a vraiment des réticences qui sont quand même plus importantes. J'ai l'impression que plus on est âgé, ouais. Et surtout, encore une fois, plus on est âgé, plus on a de probabilité de faire partie de la catégorie des populations les plus aisées, plus on a de réticence à changer son mode de vie. Donc oui, les jeunes ont des contradictions profondes, et c'est pour certains, ils sont pas du tout écolos, même pour une partie peut-être plus importante, la plus importante d'entre eux. Mais j'ai l'impression que les jeunes sont une catégorie plus malléable, parce qu'on a moins eu le temps de s'habituer à ce qui est ce rêve-là, ce qui est désirable, c'est cet imaginaire-là. Et effectivement, dire à quelqu'un de 70 ans, là, il va falloir tout changer du sol au plafond, parce que c'est tout le drame de l'urgence écologique, c'est que c'est urgent et qu'on peut pas attendre qu'il y ait un renouvellement générationnel pour faire ça. Ben c'est plus difficile à entendre. Et encore une fois, parfois, c'est même pas forcément les plus gros pollueurs, mais c'est renoncer à cette viande et se dire c'est pas un renoncement, c'est le choix d'autre chose. C'est plus difficile à entendre pour quelqu'un, j'ai l'impression en tout cas, qui a 70 ans et qui a fait ça toute sa vie, que quelqu'un qui aujourd'hui a 20 ans et se dit bah voilà, en fait, je vais faire autre chose.
J'ai 40 ans et quand un gars de 20 ans il me dit il faut faire ça comme ça, je dis bah je m'en fous, tu n'as pas l'expérience, tu connais pas, qu'est-ce que tu m'apprends des choses. Alors parfois il a raison, mais j'ai du mal à le suivre.
Voilà. Et puis il y a un truc, alors là je le dis de manière très cynique et je le dis pas du tout comme ça dans le livre, que j'ai voulu être très pédagogique pour les plus âgés, c'est pas du tout agressif, mais moi j'ai l'impression qu'il y a un moment. Bon, on est quand même moins exposé. Quand on voit le futur vraiment ultra chaotique, ultra apocalyptique, c'est dans 40, 50 ans. Là, c'est vraiment... on ne veut pas y être. Bon, bah, ils ne seront plus là. Et je suis désolée. Moi, je pense qu'il y a aussi une partie de cynisme où les jeunes ont peut-être plus envie de se bouger, parce que quand ils prennent conscience, en tout cas, de l'urgence écologique, bah, ils savent que là, il leur reste, ils vont vivre un truc qui est extrêmement, extrêmement sombre, alors que les plus âgés vont le vivre, en tout cas, moins longtemps.
Alors dans ce jeu de rôle, il y a sur la question des transports, il y a un truc qui est ressorti pour moi, hein, c'est que à chaque fois il y avait le véhicule électrique qui ressort. Toi, tu avais ton Vespa électrique. Je crois que Toi, oui.
Moi, mon chauffeur, alors j'ai un chauffeur,
ouais.
Mais on a un véhicule électrique.
Ouais, c'était un SUV hybride ou un
oui,
SUV électrique ?
Oui, c'est électrique, électrique.
Ouais, c'est ça.
Je dis ça parce que pour me, je me suis renseigné et j'ai demandé à des amis qui travaillent dans l'écologie, etc. Et ces politiques responsables écologiques de partis écologiques ont des chauffeurs. Voilà. Bah... En plus d'avoir des voitures. Voilà, je trouvais ça étrange.
Mais du coup, est-ce que ça signifie que la voiture électrique, c'est une solution hein, pour, face à ce problème ? Ou est-ce qu'en fait, il faut plutôt profondément changer notre manière de voir le transport ? Et si c'est le cas, est-ce qu'on peut le faire ?
Je pense que c'est assez nuancé, en fait. C'est vrai qu'il faut privilégier, si on peut, aller travailler par d'autres moyens que la voiture. Ça peut passer par le vélo, ça peut passer par les transports en commun. Je pense qu'il faut aussi ne pas négliger la possibilité de télétravailler dans des, pour des métiers où c'est possible. Laisser un peu plus libre cette possibilité-là. Et puis après, bah, c'est un peu au cas par cas. Si vous n'utilisez jamais votre voiture, que vous en l'avez pour des urgences, et que tout le reste de vos trajets, vous le faites en vélo ou en transport en commun, bah, vous n'allez pas changer une voiture qui ne sert jamais pour un véhicule électrique où le coût de la batterie va être énorme et où vous n'allez pas la mettre en éco-partage, par exemple. Alors que si vous prenez une voiture électrique dans l'idée que vous êtes plusieurs à ne pas l'utiliser, que vous allez du coup la partager, bah là, ça vaut le coup. En fait, c'est un peu au cas par cas. On ne peut pas dire acheter tous des véhicules électriques. Juste essayer de ne pas prendre la voiture et après, bah, ça dépend, quoi.
Et sur... Non, vas-y, Manek.
Sur la voiture... Je vais faire appel à une petite séquence backseat qu'on a eue au mois de décembre. On a accueilli, à l'époque où on avait un ministre des Transports, Clément Beaune. Et moi, je lui avais expliqué ma petite expérience personnelle qui est... Moi, je n'ai pas le permis aujourd'hui. Déjà parce que moi, j'ai été victime d'un accident quand j'étais gamin, mais aussi parce que je me disais que c'était ma part et que j'étais très bien en transport en commun à Paris. Et ensuite, on se retrouve confronté à un principe de réalité, c'est que le système de transport à Paris, le réseau de transport, c'est... Ça peut devenir un enfer sur certaines lignes, notamment pour ceux qui viennent de la banlieue pour aller vers Paris. Et qu'à la fin, bah là, moi, je suis en train de passer mon permis parce que c'est devenu un petit trauma. Et je vais finir par avoir une voiture alors que j'ai tenté le plus longtemps possible de m'éloigner de ça. Donc en fait, oui, OK, pour une transformation, pour que tout le monde aille vers des transports en commun et abandonne la bagnole, à condition que le réseau suive derrière. Et là, on nous parle du réseau de transport parisien. Désolé les Lillois, je parle de Paris, je sais. On parle du réseau de transport parisien pour les JO, mais on oublie de parler du transport parisien déjà pour le quotidien, pour ceux qui partent bosser. Et c'est un enfer, quoi.
Un enfer.
Ouais, je dirais aussi que concrètement, historiquement, la bagnole, c'est quand même une fierté, une réussite limite sociale. On a une voiture, on est content de base. C'était ça à l'époque. Aujourd'hui, je pense qu'on a conscience qu'il y a d'autres manières de se déplacer déjà beaucoup plus efficacement, tant d'un point de vue de temps parfois, parce que quand on voit le temps qu'on peut prendre pour se garer à Paris ou à Lille, je pense que c'est le même enfer. Mais concrètement, il y a ce symbole déjà qui est en train de au fur et à mesure se réduire, et ça, c'est la bonne chose. Et on parle beaucoup de décarbonation, et je pense que la voiture, il faut la décarboner, ça passe par la voiture électrique, la fin... de la vente de véhicules thermiques en 2035, c'est une bonne chose. C'est un objectif qui, je pense, permettra de contribuer plus que jamais aux efforts qu'on nous demande. Mais par contre, aussi, il ne faut pas oublier que l'électrique, c'est un vrai sujet. Il va falloir trouver l'énergie pour aller recharger toutes ces voitures. Je ne pense pas qu'on soit encore tout à fait prêt. Il y a un vrai sujet sur l'électrification et comment on va pouvoir sourcer cette électricité. Il y a un autre sujet, ça va être les emplois, parce que c'est quand même... De mémoire, c'est 400 000 emplois directement qui pourraient être impactés. Enfin, comment est-ce que demain on fait ? La bagnole électrique, c'est 50% d'emplois en moins en France et c'est aussi la fin d'un savoir-faire français. Et ça, c'est quand même dommage. Et je pense que Salomé, tu partages aussi cette vision-là de se dire, OK, aujourd'hui, c'est porte ouverte aux concurrents internationaux tels que les Chinois, comme les Américains, qui ont un vrai savoir-faire dans l'électrique. Mais quid du savoir-faire français, de l'avantage compétitif qu'on a toujours eu. Et ça, c'est un truc sur lequel il va falloir reprendre des initiatives fortes, pas qu'européennes, aussi françaises, pour trouver justement un nouveau savoir-faire et montrer que la France, sur le territoire et sur la scène de l'électrique, on peut avoir notre mot à dire.
Vas-y.
Vas-y, Salomé.
En fait, je voudrais juste... réagir sur la question des imaginaires que j'essaie de beaucoup évoquer et du changement de paradigme. C'est-à-dire que quand on nous demande pour ou contre la voiture électrique, c'est un faux débat. Évidemment que la voiture électrique est un outil indispensable parce que ça pollue beaucoup, beaucoup moins qu'une voiture thermique dans les territoires qui sont isolés pour réussir à, voilà, c'est, à relier certains points. Mais là encore, il faut réussir à se dire que les changements dont on a besoin et qu'il faut opérer sont extrêmement profonds. Et donc, il faut revoir complètement notre manière d'appréhender le transport, la mobilité. On ne va plus pouvoir prendre l'avion... à ce point, mais il va falloir réduire vraiment drastiquement. Jean-Marc Jancovici disait 4 trajets dans une vie, peut-être. En tout cas, il va falloir réduire ça. Et puis après, c'est des transports en commun. C'est une obligation. C'est une obligation. Et c'est d'ailleurs écrit dans le rapport du GIEC. On a besoin de développer en France, notamment le ferroviaire. C'est pas du tout ce qu'on est en train de faire. Quand on voit les investissements qui sont faits dans les derniers, le dernier projet de loi de finances du gouvernement, on est à des années-lumière de ce qu'il faudrait faire. Même dans les lois sur l'écologie, on est à chaque fois à développer quelques lignes de TER, de quelques lignes de TGV. Mais c'est vraiment, il faut développer ça à très, très grande échelle. Et ça implique aussi de revoir le plan d'urbanisme, de revoir la manière dont on... C'est pour ça que ça implique toujours beaucoup d'autres questions. Ça implique de revoir le logement. En fait, on ne peut pas avoir des petites maisons éparpillées partout sur le territoire parce que ce n'est pas reliable avec des transports en commun. Et la seule manière de faire face à ça, ça ne va pas être de développer la voiture électrique à très grande échelle, même si, bien sûr, oui, il en faudra une partie. Mais quand on regarde en termes de ressources, en termes de métaux rares, ce que ça demande, en termes d'électricité, on ne peut pas juste remplacer un parc automobile tel qu'il existe aujourd'hui par un parc automobile électrique. Ça ne fonctionne pas, ça ne rentre pas ni dans les limites planétaires, ni dans les pures limites de matériaux en fait, aujourd'hui dont on dispose. Et malheureusement aujourd'hui, c'est ce que je déplore vraiment dans le débat politique sur l'écologie, c'est qu'on est vraiment en train d'essayer de guérir un cancer du poumon avec du Doliprane, c'est-à-dire en essayant de faire des petites mesures par-ci par-là pour essayer de maintenir le mode de vie. Mais en fait, ce qu'il faut faire là, c'est arrêter de fumer, et c'est pas ce qu'on est en train de faire en changeant pas aussi profondément le mode de vie. Et moi, c'est tout le rôle du journalisme aussi aujourd'hui, c'est d'essayer d'informer les gens sur l'ampleur des transformations à venir, sans faire peur ou sans être alarmiste, mais de dire en fait là on n'a pas le choix. Et malheureusement aujourd'hui, et c'est ce que je déplore, quand on dit ça, on est encore qualifié de militant, on pense que c'est un point de vue. Et en fait, c'est une réalité matérielle, scientifique avec laquelle nous devons composer. Et moi, j'aurais bien aimé en tant que jeune me dire je vais prendre l'avion, j'adorais prendre l'avion, vraiment c'était un truc que je préférais faire, j'aimerais avoir comme rêve simplement de voyager, de continuer à vivre comme ça et de me dire que la technologie va nous sauver, mais c'est pas le cas. Donc je pense qu'il faut juste avoir cette prise de conscience et que ce soit intergénérationnel.
Après, il y a un changement de comportement avec, justement, on voit de plus en plus les choses comme des choses qu'on peut louer, qu'on peut utiliser ponctuellement. L'autopartage est un très bon exemple, et de voir demain que la mobilité, c'est un peu comme un service qu'on peut prendre quand on a besoin, c'est peut-être comme ça qu'on va pouvoir avancer avec l'autopartage.
Il faut parler chiffres. Enfin, il faut mettre des milliards dans le ferroviaire aujourd'hui. C'est une obligation si on veut développer le transport en commun. Ça prend tellement de temps à se développer qu'on ne peut pas attendre de faire des mini-mesurettes de oui, machin.
Et ça pose une question aussi de qui prend les bonnes décisions. Et concrètement, je pense qu'il y a un sujet entre à qui on délègue telle ou telle mission, quand il y a des sujets qui sont gérés d'un point de vue régional alors qu'ils pourraient être encore plus incités et qui pourraient être encore plus efficaces et rapides d'un point de vue national avec un vrai plan, un plan de relance des transports. Alors France 2030 et France Relance s'inscrivent quand même dans cette démarche. C'est pas un problème que j'ai construit.
Hein. Non, mais c'est juste que c'est pas à la hauteur, en fait.
Après, à un moment donné, si on reste dans le pessimisme dans lequel on va se dire, dès qu'il y a un truc, on va se dire que c'est jamais suffisant. Moi, je trouve que justement, on va se dire, ok, on fait un test, ça fonctionne, on y va encore plus rapidement par la suite.
Je veux juste dire, quand je dis
que c'est pas suffisant, c'est le Haut Conseil pour le climat, qui est l'institution créée par Emmanuel Macron lui-même, qui est composé de scientifiques, qui le dit par rapport à la politique du gouvernement. C'est pas une opinion personnelle. Moi, j'aimerais bien que ce soit suffisant, mais quand des scientifiques qui étudient ça toute la journée nous disent là vraiment, on est à des années-lumière de ce qu'il faudrait faire, moi, j'ai tendance à vouloir les écouter.
Avant qu'on passe au thème suivant, Firbo, tu voulais jeter
un truc. En deux mots, j'ai fait un jeu de rôle avec Arte sur France en 2050, la France en 2050, avec des rapporteurs du GIEC. Et en fait, la leçon de ça, c'est que c'est même pas une question d'argent, c'est une question de sens. C'est-à-dire, ça n'a pas de sens de prendre l'avion, d'aller à Punta Cana pour un week-end et d'allumer la télé, de regarder les Simpsons parce qu'il y a la pluie dehors et tu peux pas aller sur une plage qui est la même qu'à Porquerolles finalement. Ça n'a pas de sens. Et par contre, comment on envisage le... eux, par exemple, le rapporteur du GIEC, ils disent En 2050, tu n'auras même pas de voiture électrique. Tu auras, les autoroutes seront, il y aura des vélos sur les autoroutes. Voilà, c'est ça qu'ils pensent. Mais le, effectivement, ils pensent par exemple au slow travel. Vous voulez aller au Japon, c'est un projet de vie et vous allez mettre 5 ans pour y aller. Vous allez aller en voilier, en vélo, vous allez prendre le temps et vous allez vivre le voyage de votre vie. En fait, vous allez simplement donner du sens à votre vie. Vous allez faire les choses en pleine conscience et vous allez kiffer comme jamais. Mmh. Et c'est vraiment un changement intérieur. Et c'est là, Salomé, que moi, je n'ai pas la foi en les politiques. Et il y a vraiment deux façons de voir les choses. C'est-à-dire, on met les milliards, il y a les trains, du coup, on prend les trains. Ça, c'est vrai. Mais moi, ce que je vois, ce qui s'est passé concrètement, c'est qu'il y a eu le Covid et on a été obligé de prendre des transports en commun. Et du coup, on a pris les transports en commun. D'ailleurs, la SNCF s'est gavée parce qu'ils n'ont rien fait, aucune infrastructure autour de ça. Et donc, effectivement, je pense que c'est à titre individuel, il faut changer, s'élever. Et j'espère que les jeunes pourront le faire. Voilà.
Oui, mais juste le Covid, on voit que c'est la contrainte qui a fait ça. Et que finalement, alors ça venait pas des politiques, mais ça venait du Covid. Mais dès que les frontières se sont réouvertes, moi aussi, je me suis dit, tiens, les gens prennent les transports en commun. Peut-être que ça y est, les gens vont se mettre à prendre le train au lieu de l'avion. Et en fait, on a eu le transport aérien qui est aujourd'hui plus élevé qu'avant le Covid. Donc, il n'y a pas du tout eu de leçons qui ont été tirées.
Oui, mais il y a d'ailleurs le télétravail. On a cru à un moment que ça allait se faire, mais ça ne s'est pas fait. Parce que c'est encore une certaine frange de gens qui ont un certain âge, qui prennent des décisions pour les autres. Ça, c'est dommage. Mais moi, j'ai l'espoir que les gens jeunes vieillissent et diront, non, c'était bien le télétravail, j'y crois et on va l'y mettre. On va se mettre. Mais il faut avoir de l'espoir. Quoi.
Mais je rebondis sur ce que tu disais. Effectivement, ce qui va s'amener, c'est en fait un changement profond du sens qu'on va donner à la vie. Effectivement, voyager, ça va plus être genre, pendant une semaine, je pars au Japon. Ça va être, ouais, je vais aller au Japon. Et ça va être quelque chose qui va prendre de la place et qui va avoir un sens beaucoup plus fort. Et on va arrêter de consommer les voyages comme on consommerait un paquet de chips sur l'apéro. Ça va vraiment être quelque chose qui va avoir un impact dans notre vie. Et du coup, juste on va changer les choses. Mais ça ne va pas être des sacrifices, il faut le voir autrement.
Je suis d'accord, je suis complètement d'accord.
Il y a vraiment d'autres choses. Je vois mon exemple personnel. J'ai énormément de défauts, je ne suis pas du tout un exemple. En revanche, je me suis mis comme objectif, quand j'avais besoin de changer d'air, de découvrir des choses à moins d'une heure de chez moi et qui, possiblement, est accessible en train ou en transport en commun. Et en fait, on découvre des choses incroyables et je n'ai pas du tout baissé en niveau de vie en refusant de prendre l'avion. Vraiment, je n'ai pas du tout changé non plus mon confort. J'ai eu un autre confort, j'ai découvert d'autres choses.
Alors, c'est l'un des thèmes que vous avez... Désolé, je passe à la suite pour qu'on avance. L'un des thèmes que vous avez évoqué lors de ce jeu de rôle, c'est l'alimentation. Et notamment, Léna, t'as commencé très fort, puisque t'as proposé à tout le monde de manger des insectes. Je sais pas si tout le monde en a mangé dans le jeu de rôle. T'as vu ça, Fibre ?
Alors,
non.
Je suis même encore en train d'en manger. Je n'en avais jamais mangé. Et je sais pas si c'est la faim qui me fait parler ou si c'est parce que je trouve ça vraiment bon. Mais en tout cas, je m'arrête pas, quoi.
Dans le public, vous en avez mangé un petit peu, oui.
Alors, ouais,
on en a quelques-uns qui en ont mangé. Alors du coup, Léna, les insectes, c'est la solution de l'avenir ?
Alors, je ne m'avancerai pas de savoir si c'est la solution de l'avenir. Par contre, on sait qu'en termes de production, ça consomme moins d'eau, ça a un bon ton de protéines, ça demande pour 2 kilos à peu près d'aliments, on peut récupérer 1 kilo d'insectes. Donc en termes de production, c'est très bien. Comparé par exemple à la viande bovine, on est plutôt à 8 kilos d'aliments pour pouvoir produire 1 kilo de viande. Donc quand on compare avec l'agroalimentaire maintenant et surtout l'élevage animal, le contraste est quand même assez évident. Maintenant, il faut savoir que dans la vie de tous les jours, vous en mangez déjà des insectes. Alors, un peu moins si vous êtes végétarien et que vous regardez les compositions des produits. Mais on retrouve dans les colorants, par exemple, déjà des insectes. On considère qu'un Français moyen consomme déjà 500 grammes d'insectes par an. Donc, c'est juste qu'ils ne sont pas, comme on le voit sur ces insectes célèbres pour la planche apéro, ils ne sont pas entiers. On utilise aussi beaucoup de farines animales qui sont créées à partir d'insectes. On connaît la valeur nutritive, on sait que ça sera une très bonne solution. Après, de là à dire que ça va remplacer la consommation de la viande, je ne pense pas, dans le sens où ce n'est pas quelque chose de très culturel en France, même si on trouve dans l'histoire de la consommation d'insectes en France et en Europe, c'est moins culturel que dans certains pays où c'est carrément quelque chose de traditionnel. Mmh. En Amérique du Sud, il y a des célébrations où on mange certains insectes et c'est vraiment ancré dans la culture. Maintenant, voilà, on sait que c'est une potentielle source de protéines, par exemple en farine, en additifs, en produits transformés qui pourront apporter de la protéine. Maintenant, voir comment ça va évoluer. Le Conseil européen, ils autorisent au fur et à mesure certains insectes. Pour le moment, je crois qu'il n'y en a que 3 qui sont autorisés. Le grillon, le molitor, il me semble, et la sauterelle, et le criquet. Donc on verra comment ça va évoluer. En tout cas, c'est une source qu'on sait moins polluante.
Mais vous pensez qu'on va réussir à accepter de manger des insectes de manière un peu quotidienne? C'est vrai que moi, par exemple, si je fais des apéros, je me vois assez bien manger un petit bol d'insectes comme tu nous en as distribué là, dans un petit bol comme des chips, parce que globalement, franchement, ils sont vraiment pas dégueux. Mais vous pensez que ça va se développer comme ça?
J'ai un reproche à faire. Je pense que la France peut totalement culturellement changer de nourriture. Oui. Un exemple très simple, les sushis. Il y a 40 ans, qui mangeait du poisson cru en France? Aller voir quelqu'un et leur dire hey, tu sais quoi, je mange du poisson cru, mais c'est excellent. Il te prend pour un fou, il va dire en plus tu vas tomber malade. Donc là, moi personnellement, maintenant, si j'ai pas mes petits sushis tout par semaine, une fois par semaine, je suis malheureux, tu vois. Donc vraiment, et je pourrais manger que ça. J'ai un reproche à faire justement sur le plan du sushi, c'est que les insectes, c'est pas très bon.
Non,
si c'était vraiment aussi bon que le saumon, je t'en mangerais des tonnes, moi.
Alors, les gens qui consomment des insectes, et j'en ai du coup rencontré autour de moi qui prônent le fait de manger des insectes et de remplacer du coup tout ce qui est protéines animales par des insectes, disent que c'est parce qu'on les cuisine très mal. Et que, en fait, c'est une question de comment est-ce qu'on les apporte. Et c'est vrai que pour le coup, si on a l'occasion de voyager, on voit que les saveurs sont complètement différentes. Et c'est compliqué de s'imaginer manger un scorpion recouvert de sauce soja là à l'heure actuelle. Mais du coup, c'est pour ça que je pense qu'il y a, un contraste. Où, pour moi, on ne va pas les manger sous cette forme entière. Et puis même, je trouve, quel est l'intérêt? Enfin, en fait, il y a des protéines ailleurs. On peut juste ne pas manger d'animaux. Je pense gustativement que voilà, si on n'aime pas ça, on peut juste remplacer par d'autres choses. Et sinon, bah voilà... Pourquoi pas, si vraiment on veut manger des protéines animales, essayer d'apprendre à faire des plats différents avec des insectes. Mais je vois pas l'intérêt de remplacer forcément par d'autres animaux.
Ouais, dans le chat, c'est d'ailleurs un truc, je suis en train de le regarder un petit peu, hein, un commentaire un peu qui nous dit que ça parle de végétarianisme, mais que ça s'enjaille, c'est à l'idée d'exploiter des insectes et en plus d'autres espèces. Un petit peu fort comme commentaire, mais finalement, l'idée, c'est plutôt de donner peut-être une autre option pour s'alimenter différemment.
Voilà, sur la question de la souffrance animale, moi, j'ai une mauvaise nouvelle. Hein. J'ai une amie qui est en train de me dire que les plantes communiquent entre elles via 2000 facteurs chimiques. Si demain, les plantes...
Le système nerveux aussi développé, similaire à celui des humains qu'on a chez les mammifères,
Effectivement, c'est des degrés de séparation, mais même les IA, je leur dis pas du mal en ce moment, parce qu'on sait jamais ce qui va se passer dans 20 ans.
Vous avez été toujours raciste, s'il te plaît.
Non, mais à un moment.
En tout cas, moi, je pense que la question des insectes, de toute manière, tu l'as très bien souligné, c'est beaucoup mieux que de manger de la viande. Donc vraiment, si vous préférez manger des insectes plutôt que de la viande, allez-y. À titre personnel, moi, je suis végétarienne depuis 10 ans. Je mange pas d'insectes et j'avoue que ça me dégoûte un peu, mais je pense par pure culture, hein, parce que j'en ai une mauvaise représentation. Mais on vit très bien sans manger de viande, sans manger de poisson et sans manger d'insectes. Hein. Vraiment, il n'y a aucun souci aujourd'hui.
Quand on met de côté la souffrance animale, en vrai, s'il y avait moins d'humains sur la Terre et qu'on était tous hyper respectueux de certaines normes, on pourrait manger des steaks tout le temps. C'est juste que ça consomme beaucoup d'eau. Ouais, pas tout le temps. Autant qu'on veut.
Faudrait vraiment plus être beaucoup, quoi.
Oui, voilà. Mais
tu parlais du sens. Quel est le sens d'élever des animaux pour les tuer à la fin et surtout dans les conditions qu'on connaît aujourd'hui? Je trouve que la question écologique permet aussi de se reposer des questions sur nos modes de vie, sur ce qu'on considère être culturel, sur ce qu'on considère être normal. Et à titre personnel, j'ai été élevée dans une famille de gros viandards où j'ai beaucoup mangé de viande quand j'étais petite. Et là, j'aurais plus du tout envie de participer à ça aujourd'hui.
Il y a un élément qui est ressorti hein, dans ce jeu de rôle, hein, c'est le végétarianisme. Hein, on avait deux personnages qu'il était, la mère et la fille. Et un argument qui est ressorti, c'est bah voilà, tu manges que des fruits et des légumes, mais tes fruits et tes légumes, ils viennent de partout. Et c'est presque aussi mal que manger de la viande. C'est vrai ou pas?
La question, c'est est-ce qu'il vaut mieux manger un veau qui a été élevé il y a 20 km ou un régime de fruits qui vient de l'autre côté du monde?
En termes d'ordre de grandeur, la viande, c'est une catastrophe écologique, encore plus quand ça a été fait dans des conditions déplorables à l'autre bout de la planète. Mais même ici, alors je ne les ai pas en tête là précisément, donc je ne vais pas dire de bêtises, mais je suis certaine que la viande est ce qui pollue le plus vraiment dans notre alimentation. Si on mange un énorme steak et une mangue, la mangue pollue moins. Non, mais il faut être très clair. Après, effectivement... c'est un énorme problème. Je pense par exemple à l'avocat, qui est un très bon exemple, parce que c'est vraiment une catastrophe aussi écologique et sociale. C'est vrai que si on mange des avocats tous les jours et qu'on est végétarien, et qu'on se dit se soucier de l'environnement, il y a une contradiction. Mais encore une fois, c'est quand même rare aujourd'hui les personnes qui sont végétariennes ou qui ont une conscience environnementale et qui vont manger des avocats tous les jours. Je pense qu'on a toutes et tous nos petits travers où on va manger des framboises de temps en temps en hiver, où on va mais ça veut pas dire que c'est un style de vie, ça veut pas dire qu'on le fait tous les jours et qu'on mange des choses qui sont complètement anti-écologiques. Et je pense que la meilleure manière de procéder, c'est quand même avant tout de manger local, effectivement, et de c'est même pas une question, enfin c'est aussi du bio, mais idéalement vraiment local, de saison, et de temps en temps, et eh bien effectivement on n'est pas parfait tout le temps, mais je pense que c'est exactement le truc de la viande, enfin c'est vraiment l'argument principal, c'est de dire oui mais toi ton soja il vient de je sais pas où. Quand on dit qu'on est végétarien, les gens se sentent attaqués et nous disent oui mais toi ta mangue, toi ton tes fruits exotiques, et en fait c'est pas le même sujet pour moi. C'est il faut réduire la viande, on le sait, c'est un fait, et il faut effectivement arrêter d'importer des trucs en masse, et effectivement les fruits et les légumes en font partie, donc c'est un autre sujet, mais je le mets pas sur le même plan.
À noter que d'ici 2050, il y aura probablement des rizières le long de la Seine, et il y aura peut-être des cultures de mangue en France à cause du réchauffement climatique. Oui, je rigole, zéro. Ouais,
c'est le truc de l'avocat, on te l'a reproché hein, pendant le jeu de rôle, c'est quoi? Je crois que c'est toi, Malek, en tant que père de la famille qui a...
Mais c'est marrant, je sentais un peu le vécu de mes propres dîners de famille, quoi. Non, mais on peut pas flageller. Enfin, en fait, on en reparlait déjà. Hein, mais quand quelqu'un prend des décisions, on peut pas tout de suite attaquer avec la faille de la décision qu'il a prise. On peut pas dire ouais, ok, t'as arrêté de manger de la viande. Par contre, oui, effectivement, il vient d'où ton avocat? Il vient d'où ton machin? Est-ce que tu vas vraiment au marché tous les dimanches? Faut arrêter de juger et de vouloir enfoncer les autres. Je pense qu'en fait, il faut juste tout le monde s'entraider, se donner des recettes, dire « Ah bon, tu manges de la viande? D'accord, ok. Tiens, regarde, je t'ai fait un repas très chouette et tout. T'as aimé? Ouais, bah c'était cool. Ah bah, il n'y a pas de viande dedans. » Enfin, en fait, faut arrêter de vouloir se flageller et de s'envoyer des fions tout le temps. On peut juste avancer ensemble et surtout faire réfléchir. Et moi, j'ai toujours vu, et vraiment, je l'ai vu dans ma famille, sur beaucoup de choses, on n'est pas tous d'accord. Et j'ai arrêté d'être dans l'agressivité et le combat. Ouais. Alors, attention, c'est hyper dur. Hein. Mon Dieu, c'est horrible. Il y a des sujets où j'ai envie d'agresser toutes les personnes en face de moi. Mais au fur et à mesure, quand j'ai changé mon positionnement et que j'ai été moins dans l'attaque, même si je me prenais des attaques moi, eh ben, j'ai vu que j'ai réussi à faire un peu plus changer les choses. Et au fur et à mesure, au deuxième repas de famille, j'ai vu que ma grand-mère, elle a accepté de goûter mon faux gras à Noël. Et j'ai vu que mon beau-frère, qui est pro-chasse, il a arrêté de tirer sur telle espèce protégée. Enfin, en fait, il y a des tas de choses qui ont avancé. Et voilà. Ouais, je viens de le dénoncer. N'essayez pas de trouver son nom. Ça n'est pas arrivé beaucoup.
La consommation de viande, c'est souvent un marqueur d'empathie. C'est bête de le dire, mais moi, effectivement, avant, j'avais un métier à la con et c'était que pour ma gueule. Et puis, je me suis aperçu. Alors, je mange de la viande, mais à un moment, j'ai plus pu manger de lapin. Parce que la viande de lapin a la forme d'un lapin. Et vraiment, un lapin, c'est mignon. Et vraiment, j'ai dit, je peux plus pêcher de poisson. J'étais un pêcheur de poisson. Je peux plus pêcher le poisson, le tuer et le manger, c'est plus possible. Par contre, le poisson pané, ça va tout à fait. Donc, et je vois que de plus en plus, je ne peux plus manger certaines espèces de viande parce que j'ai développé une empathie. Donc, peut-être les jeunes générations ont beaucoup d'empathie, peut-être avec des vidéos TikTok de chats, tu vois, mais on a développé de l'empathie vis-à-vis des animaux.
Moi, je pense que le côté alimentaire, il y a une question d'éducation. Je complète ce que tu disais, Salomé, c'est plus de 14% d'émissions mondiales qui sont liées à l'élevage du bétail. Concrètement, je pense qu'aujourd'hui, en France et même dans plein d'autres pays, on manque d'une vraie éducation sur plein de sujets. Alors, je me défends beaucoup sur le sentiment de citoyenneté. Je pense que, et je fais un aparté rapide là-dessus, je pense qu'on manque aujourd'hui de cours qui soient vraiment assumés et assurés sur l'éducation citoyenne. Ça, c'est mon point de vue, mais également sur...
Oh, on a le service national universel qui arrive. Mais, ça va faire du bien. Ça va remettre les jeunes en ordre.
Mais vraiment, je pense qu'il y a aussi un sujet sur l'éducation, évidemment, sur l'alimentation. Je pense que c'est un rôle éducatif de venir justement changer un petit peu le prisme et de venir accompagner et pas juste rejeter la faute ou dire « il faut que tu fasses ci, il faut que tu fasses ça ». Il faut juste expliquer ce que c'est qu'une bonne alimentation qui favorise la santé, qui va nous permettre aussi par la suite de tellement avoir un sens vertueux d'un point de vue écologique, mais également d'un point de vue santé, dans le sens où on ne met pas suffisamment en avant les problèmes de santé liés à l'alimentation. Est-ce que ça coûte à nous tous autour de la table et aux personnes qui nous regardent?
L'un des personnages qui ressort un petit peu dans ce jeu de rôle que j'ai senti à la toute fin de cette partie, c'est le papy. Il fait pas de tri sélectif et il met du plastique partout. Mais le pauvre, c'est parce qu'il a du gluten.
Ouais, bon.
Alors ça, c'est le gluten et un autre... le fait aussi qu'il est chauffé à 24 degrés parce qu'il a des problèmes d'articulation. Vraie histoire, parce que j'ai demandé aux gens autour de moi, sur mon chat, sur mon Discord, j'ai dit, bon, allez, c'est quoi vos petits péchés écologiques? Et vraiment, les gens m'ont dit, bah voilà, tout est emballé parce que je suis allergique au gluten, j'ai pas le choix. Et j'ai une énorme culpabilité. Donc, c'est des vraies histoires.
Ouais, mais alors ça, déjà, par exemple, j'ai été végétarienne pendant très longtemps. Et en fait, je suis tombée malade. Ça paraît bête, mais du coup, ça a affecté beaucoup ma santé mentale et mon alimentation énormément. Parce que du coup, je ne pouvais quasiment plus manger de légumes différents. Et je digérais à peine certains féculents, quoi. Donc, c'était très compliqué pour moi de garder mes convictions. J'ai fini par craquer, j'ai remangé de la viande pendant plusieurs années. Et là, ça y est, maintenant que physiquement et ma maladie est calmée, apaisée, j'ai enfin eu les forces pour reprendre, du coup, mes convictions et ne plus acheter de viande et en consommer vraiment, vraiment beaucoup moins. Mais... on ne va pas aller taper sur les gens qui sont malades. Bien sûr que si vraiment votre santé mentale fait que vous avez du mal à faire des gestes, eh ben, juste gardez-le en tête que quand vous irez mieux, eh ben, vous allez pouvoir reprendre ces gestes. Si vous êtes allergique au gluten, bien sûr qu'on ne va pas vous taper dessus parce que vous essayez juste de survivre et d'avoir un confort alimentaire. On ne va pas aller chercher à chaque fois les petits... Parce qu'il n'y en a pas non plus,
masse. C'est ce que j'ai l'impression que chaque histoire, chaque humain est unique. Et malheureusement, c'est compliqué. Alors, il faut faire tout le monde fait des sacrifices, mais j'ai l'impression que c'est compliqué pour tout le monde. Tout le monde essaie de faire son mieux.
Complètement. Après, par contre, peut-être la chose quand on entend quelqu'un qui est allergique au gluten, c'est de lui dire « Ah, t'as entendu parler du bivrap ? Peut-être que ça peut te permettre de changer, de ne pas utiliser du plastique ?» sans du coup pointer du doigt, parce qu'il y a aussi une certaine honte à admettre. Moi, j'ai eu beaucoup honte de remanger de la viande. Ça a été très difficile pour moi aussi de l'admettre. Encore plus quand on est sur les réseaux sociaux et qu'on parle d'écologie, c'était très compliqué pour moi de l'admettre. Et maintenant, juste, je me rends compte que j'aurais dû en parler un peu plus, parce que là, du coup, j'en ai reparlé un peu et on m'a proposé des recettes qui correspondaient à ma maladie. Et du coup, j'ai pu réarrêter de manger de la viande. Du coup, c'était bien de partager, d'échanger pour trouver des solutions autrement. Et du coup, je pense qu'il peut y avoir cette dimension-là pour les cas par cas, où on ne peut plus faire certains engagements qu'on avait à la base.
Oui, mais je pense qu'il faut effectivement réussir à... En fait, il y a deux sphères. Il y a la sphère politique, médiatique, où en tant que journaliste, moi, je considère qu'on n'est pas là pour dire à un politique qui a fait un tout petit truc bien, bravo, vraiment, on vous encourage. On n'est pas là pour faire de la psychologie, en fait. Nous, on est là pour établir les faits, expliquer ce qui rentre ou pas dans les limites planétaires ou non. Par contre, quand on est à un dîner de famille, qui était le dispositif aujourd'hui, c'est pas la même chose. C'est pas les mêmes enjeux. Et quand on sait que la première source d'information des Français, ce sont leurs proches... Quand on sait le pouvoir qu'on a individuellement, quand on convainc nos proches, comme ce que tu racontais, en fait, on parle des discussions, c'est pour ça que le dîner de famille est un espace extrêmement intéressant. Là, on se rend compte que c'est important, je crois, d'un point de vue presque psychologique, d'encourager les petites initiatives individuelles. Et quand quelqu'un renie sur quelque chose, même si c'est parfois à des échelles où on se dit, punaise, ça fait pas grand-chose, bah, je crois vraiment que c'est important de, justement pas avoir cette attitude de oui, tu me dis que tu manges plus de viande, mais tu fais ça parce que vraiment on braque les gens.
T'as pris du saucisson sur la table.
C'est ça. Non, je pense qu'on braque et qu'on empêche les personnes aussi d'avoir cette remise en question qui est profonde et qui est longue. Je pense que personne ici, du jour au lendemain, a tout arrêté et a changé de mode de consommation, de manière de manger, de manière de se transporter, de métier, parce que parfois c'est même le métier qui est problématique. Souvent c'est progressif. Et quand on a un entourage qui nous encourage, quand on a un entourage qui va valoriser ces petits changements-là, je pense que ça aide plus et que c'est plus efficace à la fin que quand on brime la personne ou quand on essaie toujours de faire un concours à qui est le meilleur écolo et que ça, c'est pas productif. Ceci étant dit, il y a quand même à un moment des contradictions qu'il faut souligner, surtout dans la sphère politique, dans la sphère médiatique, et on ne peut pas se contenter de petites avancées. Et en fait, ce qui est souligné depuis tout à l'heure, c'est des débats démocratiques à avoir. C'est-à-dire qu'on a tant de ressources, on a tant de capacités en termes d'humains, on a un territoire donné. Qu'est-ce qu'on fait avec ça ? À qui on va dire, ok, toi tu peux garder le chauffage parce que t'as des problèmes articulaires, ok, toi effectivement tu te retrouves dans telle situation, donc on peut comprendre que t'es, je sais pas, à prendre l'avion, quel quota on va donner à combien de personnes, sur quelle durée, et en fait c'est un nombre de débats démocratiques qui est immense, et c'est pour ça que je pense qu'on est beaucoup en tant que journaliste parfois sur l'écologie à avoir l'impression qu'on a le cerveau qui va exploser parce que ça touche à tellement de domaines différents, et on a besoin d'en parler, on a besoin de prendre des décisions collectives, et vraiment, c'est pas que je suis spécialement énervée sur le sujet, c'est juste qu'aujourd'hui, on n'est pas en train de prendre ces décisions. Et quand on a les agriculteurs qui sont en train de manifester, on est en train, encore une fois, de discuter de si leur mode opératoire est le bon, de si vraiment les normes environnementales sont trop contraignantes, alors qu'elles ne sont pas trop contraignantes. C'est pas la question, en fait. Aujourd'hui, c'est comment on arrive à nourrir tout le monde, et le débat est toujours à côté. Et on n'est jamais en train d'avoir ces débats réels, écologiques, qu'on devrait avoir. Et c'est ça que je veux déplorer. Et c'est pas d'aller dire à votre frère, ou votre sœur, ou vos parents, vraiment, là, le petit effort que t'as fait, c'est pas bien, parce que tes cure-dents sont en bambou. Je sais pas pourquoi ça vient.
Oui, c'est ça. Il y a vraiment des trucs individuels. Et après, en fait, il faut voir la globalité. Ce qui est vraiment à régler, c'est surtout la globalité. Mais les deux, en fait, il y a les deux sphères à gérer. Qui sont intriqués.
Et la globalité, d'un point de vue international aussi, parce que c'est un vrai sujet. Et ça, il ne faut pas l'oublier. C'est que c'est très bien de vouloir faire des efforts en France. Mais il ne faut pas que ça, d'une part, amoindrisse notre compétitivité. Ça, c'est un premier sujet, parce que ça pourrait être drastiquement catastrophique par la suite. Mais également avoir une dynamique internationale, collective. Mais je pense que les intérêts divergent trop et sur lesquels, aujourd'hui, il y a des vrais faits géopolitiques sur lesquels, aujourd'hui, on est en désaccord. Ça nous fait aussi évoluer. Hein. Par exemple, la crise de l'énergie, aujourd'hui, qu'on connaît, elle est liée tout simplement à une tension géopolitique. Et concrètement, aujourd'hui, ça fait soulever, c'est un petit peu ce principe schumpeterien de cette destruction créatrice où on se dit, ok, la souveraineté alimentaire, on l'a vu avec les céréales en Ukraine, la souveraineté énergétique, ça pose aussi des vraies questions sur demain, ok, comment on fait, comment est-ce qu'on va pouvoir au moins d'un point de vue européen se coordonner, parce que moi je me dis, ok, comment est-ce qu'on va pouvoir mettre d'accord la Chine avec les États-Unis et avec l'Europe au milieu. Et il y a aussi d'autres grandes puissances qui ne jouent pas le jeu. Mais le problème, c'est que si on agit solitairement ici en France ou à l'UE, ça ne sera jamais suffisant. Et ça, c'est un autre problème.
Ça
c'est un autre problème international, en fait.
Il faut que nos gouvernements montrent l'exemple aussi aux autres.
Ouais, mais je ne suis pas d'accord, moi, sur le fait que ce n'est pas suffisant. Je pense qu'on peut changer énormément de choses, déjà, à notre
échelle. Oui.
Et qui vont vraiment faire la différence, sans attendre la Chine, notamment sur toutes les questions d'adaptation du territoire. Quand on sait que de toute façon, on va avoir des inondations, on va avoir des phénomènes météorologiques extrêmes, on va avoir des pénuries d'eau, on n'a pas du tout besoin d'attendre la Chine, ni même l'Europe, pour s'organiser en France, avec, encore une fois, des ressources données et des entreprises données. Et évidemment que sur la question du réchauffement climatique, par exemple, bien sûr, la réduction de nos émissions ne sera pas suffisante, mais il y a déjà un milliard de trucs qu'on peut faire sans attendre les autres, et on se concentre toujours sur le fait qu'on doit
attendre. Je pense qu'on peut se préparer, mais on ne peut pas contrer. C'est ça le problème, au final. Et le pire, c'est qu'en se préparant de la mauvaise manière, et pas collectivement avec d'autres pays, ça peut nous porter préjudice, notamment aussi sur notre compétitivité.
Mais si on attend trop les autres pays, du coup, on prend du retard, nous, sur comment on se prépare et comment on se positionne aussi. Et
on peut être leader, en fait.
C'est ça, on peut montrer l'exemple. Et c'est ça, en fait.
Sans rentrer dans un truc ultra utopiste et complètement décorrélé de la réalité, moi, je m'interroge vraiment, en tant que journaliste économique, sur est-ce que la compétitivité internationale de la France doit être notre boussole ? Est-ce qu'aujourd'hui, ça doit être ça qui doit nous guider et qui doit guider notre action ? J'entends bien sûr que si on a un effondrement demain de notre économie telle qu'elle est imbriquée dans l'économie internationale mondialisée, ça va avoir des conséquences. Mais de toute manière, les conséquences vont être tellement majeures à échelle internationale, à échelle nationale, de toute manière à très court terme, que je m'interroge sur... parce qu'aujourd'hui, c'est ça qui guide l'action de la France, économiquement. C'est de rester avec un PIB en croissance, de rester compétitif, d'avoir des entreprises qui sont compétitives en France avec des entreprises à l'international. Et on voit que c'est un fiasco. Donc, est-ce qu'il ne faudrait pas, à un moment, se dire qu'on essaie autre chose, même si, effectivement, on n'est pas totalement certain que ça marche, puisque, de toute façon, on est certain que ce qu'on fait là ne va pas fonctionner sur le long terme.
Non, mais on croit aux entreprises décarbonées, justement. Je pense que c'est le sujet juste après sur l'énergie, mais concrètement, je pense qu'il y a un vrai sujet aussi là-dessus.
Alors, le sujet suivant que je voulais aborder, c'était la question du numérique, puisqu'il y avait notamment un Vendry qui représentait pas mal cette question-là, hein, l'homme qui investit énormément dans les crypto-monnaies. Non pas le Bitcoin, mais le Green Coin, il l'a beaucoup évoqué, la présence sur les réseaux sociaux, etc. Comment est-ce qu'on gère ces questions de l'impact numérique, de l'impact écologique de notre utilisation du numérique ?
Alors,
oui, vas-y.
Je pense qu'il y a plusieurs sujets sur le plan du numérique. Il y a déjà, d'un point de vue de la consommation, c'est-à-dire, ok, est-ce que je fais tous les soirs sur Netflix, est-ce que je fais du stream, etc. Ça, c'est... Un premier sujet, c'est OK, quel est le mode de consommation dans notre quotidien et est-ce qu'on est aussi incité à utiliser le numérique ? Ça, c'est le premier sujet. Après, le deuxième sujet, ça va être OK, comment on va construire les plateformes digitales sur lesquelles on va demain diffuser du contenu, diffuser des messages. Concrètement, on parle d'éco-conception de plus en plus. Moi, je dirige une agence digitale. Concrètement, on fait attention à l'éco-conception de nos sites internet pour justement avoir un impact positif et alimenter aussi la démarche RSE de nos clients. Et ça, c'est un sujet important. Et un troisième sujet essentiel aussi, ça va être, OK, ces sites web, ces plateformes, il faut les héberger. On a parlé de data center tout à l'heure, c'est un vrai sujet aussi sur concrètement comment on va les alimenter et comment est-ce qu'on peut réfléchir autrement. Il y a des solutions qui existent, qui ont été pensées, qui sont beaucoup plus écologiques, qui peuvent demain, la chaleur... Concrètement créé dans ces data centers, est-ce qu'on ne peut pas la réutiliser autrement ? On parle beaucoup d'alimenter des logements en chauffage grâce aux data centers aussi. Concrètement, il y a des solutions, il faut juste bien découper la réflexion avec, je pense, ces trois échelles de valeur.
Vas-y.
Oui, alors, puisque tu as fait la pub de ton livre, je fais la pub du mien. IA Miroir de nos vies, traduit en coréen, en allemand, titulaire de 2 prix mathématiques, sur l'intelligence artificielle. Et en gros, TLDR, l'intelligence artificielle, théoriquement, elle pourrait nous affranchir des travaux intellectuels, de la même façon que les robots nous permettent aujourd'hui de ne pas avoir des gens qui vont à l'usine pour serrer des boulons comme dans le film de Charlot. Et on ne sait pas du tout ce qui arrive parce que la technologie aujourd'hui elle est entre les mains de gens pour qui le revenu universel de base ou le fait de se lever le matin et de ne pas aller travailler, c'est un modèle qui ne les intéresse pas du tout. Ils veulent être dans la productivité, dans le profit, on ne sait pas pourquoi. Donc aujourd'hui, je dirais que la technologie est une solution, le numérique est une solution, mais il est très mal dirigé. Il est dans les mains des pires personnes. Voilà.
Moi, je rajouterais que c'est une solution, mais aussi un problème. Et que c'est quand même aussi à la source de nombreux maux de notre société. Et je vais faire, désolé, la rabat-joie, mais pas tant que ça, en fait, sur ce sujet. Parce qu'il faut quand même garder du numérique. Aujourd'hui, je ne plaiderai pas du tout pour qu'on arrête complètement le numérique. D'ailleurs, je vis grâce au numérique. Je suis journaliste web, donc je ne pourrais même pas avoir de salaire si le numérique n'existait pas. Et je pense que ça apporte vraiment des transformations démocratiques via les réseaux sociaux, que ça apporte des choses formidables sur le plan de la santé aussi. Enfin, il y a de nombreuses transformations qui sont rendues possibles grâce même aux nouvelles technologies de manière générale, mais là encore, on a un problème de niveau de consommation, et comme dans tout le reste, il faut être plus sobre. En fait, il faut réduire. Il y a un moment, il faut réduire le volume. On ne peut pas continuer. Si tous les pays du monde voulaient avoir le même niveau de consommation numérique qu'un Américain ou qu'un Français, ce serait matériellement pas possible. Encore une fois, on pourrait parler des métaux rares qui sont présents dans les téléphones, dans les ordinateurs, qui sont quand même... d'une grande partie de la consommation, on n'en a pas assez. Et le numérique, c'est aussi tout ce qui nous permet de relier nos téléphones, ce qui nous permet de relier nos ordinateurs, qui est extrêmement énergivore, qui est extrêmement consommateur, encore une fois, de métaux qu'on n'a même pas en France, en plus. Donc, c'est vraiment là où on est très, très loin de ce qu'il faut faire. Donc, il va falloir recycler tout ça, mais on ne peut pas garder le même niveau de consommation numérique. En fait, il va falloir aussi revenir à des choses plus simples. Et là où on va dans le mur, et là où on fait, encore une fois, je pense, un non-sens économique, c'est quand on continue à produire des frigos connectés, des trucs dont on n'a pas du tout besoin et qui sont de plus en plus nombreux, le nombre de start-up en France, parce que quand on regarde l'économie, là, le nombre de start-up qui lèvent mais des dizaines de millions pour des applications vraiment dont on n'a pas du tout besoin, qui créent de nouveaux besoins, je trouve que c'est vraiment voilà, encore une fois, le cœur de la problématique, qui est que bah, c'est très compétitif, ça marche très très bien dans le monde économique actuel, mais ça marche pas en termes de ressources. Donc c'est vraiment de rediriger la manière dont on gère ces nouvelles technologies, dont on gère ce numérique, pour que ce soit au service du bien commun, et que là encore, on se dise, mais qu'est-ce qu'on garde? Parce qu'on pourra pas tout garder.
Et l'obsession de compétition internationale, elle est délétère. Le 22 février, sur cette chaîne, je fais un jeu de rôle avec le CNES sur la confiscation de l'espace et les satellites. C'est que, par exemple, Elon Musk a mis Starlink dans le ciel qui permet d'avoir l'Internet de partout. Et l'Europe a dit, bah dis donc, il faut qu'on ait notre Starlink. Donc, on a créé notre Starlink, qui s'appelle IRIS², il y aura beaucoup plus de satellites. Et la Chine dit, on va pas laisser faire ces Européens. Donc, il y a encore plus de satellites. Donc, il va y avoir plein de satellites. Alors, ça coûte très cher. Il y a vraiment des problèmes dans l'espace qui sont trop longs à expliquer aujourd'hui comme ça. Et c'est... En fait, cette compétitivité et le focus sur la profitabilité qui n'a aucun sens, c'est le cœur du problème. Parce que la technologie, elle est neutre. Le nucléaire, c'est neutre. C'est ce qu'on en fait qui est grave. Et aujourd'hui, tout est tourné. La crypto-monnaie, c'était vraiment l'avatar suprême de la technologie utilisée pour rien du tout. Mais aujourd'hui, il faut simplement avoir une utilisation éclairée de la technologie. Mais en fait, ça prend du temps. C'est-à-dire que quand on est face à un marteau, il faut se concentrer dessus et se dire « mais qu'est-ce que je peux faire avec ?» Mais effectivement, le premier réflexe, c'est « je vais le prendre et je vais donner des coups de poing à mon voisin parce que c'est rigolo. » Mais effectivement, on peut faire des choses merveilleuses avec n'importe quel outil.
Ce n'est pas parce qu'on peut le faire qu'on doit le faire.
Exactement.
On va bientôt arriver au bout de cette séquence entre nous. Mais pour terminer, du coup, je voulais vous demander, on s'est demandé au début qui était le pire écolo de toute cette bande dans la famille. Est-ce qu'on peut se poser la question en fin de stream, qui était le meilleur ?
Ah, j'ai eu peur parce que j'ai cru que ça allait dire il fallait se dénoncer entre nous qui était le pire écolo. Du coup, j'ai eu un peu peur. Je me suis
c'est
dit,
le moment de parler des Glantines, je pense.
Malek, par exemple, pense pas, c'était qui le meilleur?
Non, je pense vraiment que c'était Glantine, en réalité. Quand
je suis triste, moi j'aurais aimé jouer vraiment quelqu'un d'horrible, mais elle était pas si terrible.
Non, t'étais pas terrible du tout. T'étais la moins pire.
Ouais, non, en fait, Glantine,
Glantine.
Elle est quand même contre les éoliennes. Hein.
Je pense que c'est la meilleure parce que, étant donné son âge, tu es quand même victime du patriarcat. Du coup, tu prends pas vraiment des décisions par toi-même, tu vois.
Ouais. Non, mais c'est vrai. Peut-être qu'elle est. Parce qu'elle subit un peu les trucs de son mari quand même.
Déjà, elle ne mangerait des viandes si son mari n'était pas là.
En fait,
elle n'aurait pas
discrète,
la piscine. Ouais, c'est vrai.
Elle subit un peu les trucs de son entourage, quoi. Les décisions de son entourage.
Je suis désolé.
Ouais. Ça va. On en reparlera après.
Non, mais comme je le disais, moi je suis pro Eglantine sur ce sujet-là. J'ai dit Eglantine, mais plaisanterie mise à part, non, il y a une vraie conscience, à part sur la partie énergie renouvelable, où on voit qu'on veut pas trop toucher au petit confort visuel pour les éoliennes là-dessus, ce qui peut être dommage sur le rôle, mais concrètement, ouais, c'est bien Eglantine qui a bien gagné là-dessus.
Moi, je dirais vraiment Louise, quoi. Enfin, en fait, elle a ce coup. Elle a 16 ans, donc elle a encore le temps d'évoluer sur ses positions. Elle a encore le temps de comprendre qu'elle a été maternée et biberonnée aux influenceurs qui partent aider le monde et du coup au Japon et tout ça. Je pense qu'elle a.
Elle a plus de potentiel, en fait.
Elle a du potentiel. Et du coup, moi, je me dis, vu qu'il y ait plus de Louise à qui on éduque. Et qu'on fasse changer son point de vue. Mais elle a 16 ans et elle est déjà engagée. Et déjà, elle est engagée politiquement. Et je trouve à 16 ans, être engagée politiquement, c'est génial. Ses opinions vont peut-être changer et ça serait bien pour plein de trucs. Mais du coup, Louise, 100%. Quoi.
Les réseaux sociaux sont toxiques, mais ils permettent aux jeunes d'être engagés politiquement. Malheureusement, pour le meilleur et pour le pire.
Moi, c'est ça. Moi, je pense que les réseaux sociaux et le numérique, c'est vraiment le meilleur et le pire. Hein. On peut en faire un formidable outil de transformation démocratique, économique, et on peut en faire quelque chose de l'ordre du dystopique, qui est, je crois, plus ce vers quoi on se dirige aujourd'hui. Donc,
et l'accès à l'information, je ne veux pas me lancer des fleurs, mais si je vois un peu les gens que je peux toucher, quand je parle d'insectes et du déclin des insectes et l'importance des insectes dans la biodiversité, je croise les doigts pour essayer de montrer à quel point c'est incroyable à une jeune génération. Et du coup, il y en a plein qui m'ont dit qu'ils avaient pris des actions. Alors là, je parle des insectes, mais du coup, ils arrivent aussi à avoir un accès à l'information et à comment faire et comment s'améliorer aussi grâce aux réseaux sociaux.
Merci beaucoup d'avoir participé à ce débrief, au dessert du dîner de famille. Je vais en profiter en terminant ce stream pour remercier un petit peu toute la régie qui s'est occupée de ce stream. Donc, il y a Maxime, Thomas, bravo. Toute l'équipe de Gozulting. Aussi, remercier l'équipe événement de Libération, Johan, Maud, Alexandre et puis Emma, qui organise le festival Place à Demain, qui est la raison pour laquelle on est réunis autour de ça. Et puis voilà, évidemment, si vous voulez vous abonner à Libération, sachez qu'on a un petit code pour vous, un petit message serviciel, hein. On est là pour ça. On a un code Twitch, hein, ça s'écrit assez facilement, tout en majuscule. Vous allez sur la page de Libération, vous cherchez l'endroit pour s'abonner, vous mettez le code promo. Et puis, n'hésitez pas à nous suivre, sur Twitch, on va faire pas mal de streams, au moins deux fois par semaine. Hein. On va discuter comme ça de plein de sujets qui nous tiennent à cœur avec nos journalistes, avec des invités, et puis refaire quelques tables rondes dans ce contexte-là. Merci à tous.
Merci.
Merci beaucoup.
Merci beaucoup.
Merci pour l'invitation.
Et puis à bientôt. Salut.
Planning for your next trip?
Elevate your travel style with Quince.
Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/pack for free shipping and 365-day returns.